Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Claude Boscherberg qui anime depuis plus de 30 ans l'émission Mémoire et Vigilance sur Radio Shalom et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous allez être à l'honneur toute cet après-midi au Mémorial de la Shoah à Paris à l'occasion de la parution de votre ouvrage aux éditions Agipresse, Souffler sur les braises pour que revivent les ombres. Il y aura donc à 15h la projection de votre dernier film, Le Témoin Impossible, suivi d'une rencontre à 17h avec donc vous-même, Claude Boscherberg, mais également Serge Klarsfeld et Henri Zadenberger, dernier survivant du convoi 73. Alors, je rappelle, Claude Boscherberg, que vous êtes également responsable de la rubrique Mémoire à Actualité juive, que l'ensemble des articles parus depuis 30 ans ont été publiés il y a 2 ans sous le titre Les témoins et le témoin, un ouvrage mémorial remarquable, une mine pour tous ceux qui s'intéressent à la mémoire de la Shoah et à l'action des fils et filles des déportés juifs de France, dont vous êtes l'infatigable mémorialiste. Vous êtes également l'auteur de plusieurs films parmi lesquels on peut citer notamment La communale au cœur. Alors, bien sûr, la première question qui vient à l'esprit, Claude Boscherberg, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps pour témoigner à votre tour sur l'histoire de votre propre famille ?
Oui, alors c'est pas facile pour répondre à cette question, parce qu'en vérité, bon, vous le savez peut-être aussi comme journaliste vous-même, c'est que sur le plan éthique, ce qui nous anime, c'est de servir les autres avant soi-même. Donc effectivement, vous l'avez rappelé, depuis 1980 et même peut-être avant, puisque en fait ma rencontre avec Serge Klarsfeld date de 1978, la date à laquelle correspond donc la publication du mémorial de la déportation des Juifs de France, et que là effectivement j'ai pris connaissance de l'itinéraire de mon père, déporté le 15 mai 1944 par le convoi 73, dont il reste un seul survivant aujourd'hui, notre ami Henri Zadenberger. Alors pourquoi? Écoutez, je sais pas trop, c'est pas rationnel cette affaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où on a besoin aussi de faire trace. Et bon, grâce à Dieu, j'ai une descendance, donc 5 petits-enfants, une mère encore vivante, à qui je souhaite de vivre au moins jusqu'à 120 ans, qui est très fatiguée, qui a beaucoup de problèmes de santé. Et il m'a semblé c'était le moment de laisser une trace de ce qui nous était arrivé, c'est-à-dire la tragédie de notre famille, avec la déportation de mon père, bien sûr, et puis une famille, la famille Yamiak, c'est-à-dire le père, la mère et le petit garçon de 7 ans, qui ont été donc déportés comme résistants et comme juifs. Et je me suis rendu compte qu'au fond, une histoire ne pouvait subsister que dès lors qu'il y avait narration. On connaît bien ça dans la tradition juive. Pour qu'une histoire perdure, il faut la raconter. Et à l'occasion, effectivement, nous sommes aujourd'hui, en 2014, dans le 70e anniversaire de la déportation des Juifs de France, c'est-à-dire en fait la dernière année qui va conduire des milliers de Juifs donc à la mort. Et très fidèle, donc, parmi les fils et filles, nous avons entrepris, plus exactement Serge a entrepris avec le mémorial, de rappeler la mémoire à la fois pour le 60e anniversaire de la déportation des Juifs de France et le 70e. Nous sommes en plein dedans et il m'a semblé que là, il y avait un déclic. Il fallait absolument laisser une trace de, au moins, je dirais, personnelle, mais en sachant que lorsqu'un Juif travaille sur la quête de la trace des siens, enfin, de toute manière, ça intéresse l'ensemble des Bnei Israël. Hein. C'est pas une démarche exclusivement personnelle. Et enfin, je dirais que après avoir parlé à ma mère et lui avoir confié à l'époque, enfin il y a maintenant plus de deux ans. Que je me lançais sur les traces des siens, les plus proches, son mari, mon père, sa sœur, une femme extraordinaire, magnifique, son mari et leur petit garçon, donc déportés après une dénonciation par une véritable salope, qui était amie de la famille et qui les a odieusement dénoncés, eh bien, j'ai vu que ma mère était quelque peu apaisée.
Alors peut-être que c'est le moment pour vous de nous présenter justement cette famille, votre famille, qui est au cœur de ce livre. Alors il y a d'un côté les disparus que vous oui. avez nommés, ceux qui ont été anéantis par la Shoah. Oui. Et puis il y a aussi de l'autre côté les vivants, oui. Ceux qui vous accompagnaient. Et notamment, je pense à votre tante Becky, qui oui. a joué un rôle très important dans l'écriture de ce livre.
Elle a joué un rôle fondamental. Parce que à la vérité, le déclic, et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le déclic qui fait que je me mets en quête de ce travail, c'est effectivement, c'est encore très présent à mon esprit, août 2012, on est en vacances, et là, je redécouvre un dossier assez épais, gros carton rouge, où il y avait marqué sur ce dossier « à garder pour toujours ». Et à l'intérieur, je retrouve, à ce moment-là, toutes les démarches qu'avait fait ma tante, donc dès la fin de la guerre, enfin, je veux dire, déjà en 44-45, pour retrouver effectivement la trace ou des informations concernant sa sœur, également mon propre père. Et j'ai trouvé que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y avait une telle intensité, une telle flamme, pour avoir des nouvelles, pour avoir des informations, parce qu'il faut, se rendre compte du marasme dans lequel se trouvaient les familles juives. Il n'y avait vraiment aucune information. Les seules informations qu'on pouvait avoir au compte-gouttes venaient aussi à ce moment-là de l'amicale d'Auschwitz qui avait été créée en 1945. Mais en réalité, la déportation juive, elle était en quelque sorte amalgamée à la déportation résistante, et que les informations concernant Auschwitz et des camps de concentration et d'extermination, Sobibor, sont venus bien après. Donc elle est à ce moment-là, je dirais, dans sa dynamique. On le sent nuit et jour pour essayer de récolter des informations à travers des appels qu'elle lance aussi bien à la radio que par courrier, etc. Et là, le déclic se fait, parce que, en fait, ce dossier, je le connaissais un peu, mais disons que j'étais pas rentré dedans. Oui, je l'avais déjà vu, mais j'étais pas vraiment rentré dedans, quoi. Pourquoi ce jour-là, on est en vacances, quoi, c'est le mois d'août, il fait beau, je suis dans mon bureau et je redécouvre le dossier, et là je me dis, mais on peut pas laisser ça, quoi, c'est impossible, on peut pas laisser ça, surtout à garder pour toujours. Et c'est comme ça que je reprends le dossier et que petit à petit, alors dans cet ouvrage, je tiens à le préciser, c'est pas uniquement, une quête larmoyante, c'est un véritable travail historien, puisque d'abord il y avait des documents avec des choses extrêmement précises et qu'elle avait réussi à obtenir par l'intermédiaire de relations haut placées, disons, et puis je décide à ce moment-là de me porter tout simplement au fort de Vincennes, qui détient, on peut dire, les archives de la guerre et de la résistance. Et c'est comme ça que, pas à pas, je reconstitue à nouveau un dossier à partir de ce dossier originel, pour essayer de comprendre, un peu comme, si vous voulez, c'était un prolongement d'elle-même, comme si je me sentais, sans être grandiloquent, mais un peu investi d'un héritage à poursuivre. Il y a quelque chose qui est très profondément juif dans cette affaire, vous voyez.
On va peut-être revenir un tout petit peu en arrière, Claude Boschberg, si vous le voulez bien, oui. Parce que c'est vrai que ce dossier est absolument incroyable. On a vraiment l'impression de suivre donc pas à pas ses recherches, et c'est aussi son espoir, sa volonté de les retrouver. Je me demandais, vous êtes né donc pendant la guerre, votre petite sœur est née
deux ans après. Moi, je suis né en 1942, il n'y a pas de secret. Ma sœur en février 1942, donc voilà. ma sœur en janvier 1944.
Et vous, pendant ces moments-là, c'est-à-dire 45, 46, 47, je ne sais pas jusqu'à quand va durer ces recherches, oui. Vous, quelle conscience vous aviez de tout ça?
Alors écoutez, comme beaucoup de gens de ma génération, c'est-à-dire on peut dire des survivants de la Shoah, puisque ma mère raconte, il faut dire, bon, il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai essayé de me retirer dans cette affaire pour laisser la parole aux miens, hein, c'est-à-dire ma tante Becky, vous l'avez dit, ma mère bien sûr, ma sœur, mes oncles.
Oui, qui témoignent tous d'une manière ou d'une autre.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il fallait comprendre dans cette affaire, et encore une fois, elle incombe à toutes les familles juives, c'est que la tragédie qui a frappé nos familles rejaillit sur l'ensemble du peuple juif. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Or, comme beaucoup de gens de ma génération, eh bien, on était évidemment dans la connaissance, mais une connaissance un peu lointaine, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents, les survivants, ils ne voulaient pas faire une donation de souffrance à leurs enfants. Donc, leur attitude, c'était, comment dirais-je, de garder un peu la parole, d'être, comment dirais-je, un peu dans le silence, mais un demi-silence, parce qu'en fait, on savait sans trop savoir. Et donc, il y a toutes ces années d'après-guerre, il faut dire que la guerre, je veux dire, les affres de la guerre ne s'arrêtent pas en 1945, voilà, c'est la joie, c'est la libération. Non, pour les familles qui étaient ensanglantées comme les nôtres, la peur, l'angoisse continuait, ce qui explique que ma mère, à ce moment-là, qui tombe vraiment dans une grave dépression, se voit dans l'obligation de nous confier.
Dans une famille catholique, à Beauvais. Catholique, bon, alors pas très catholique.
Ouais. Une famille, disons, sans coloration. Hein, mm-hmm. Mais ce sont des ouvriers, des gens de la SNCF, celui qu'on appelle le tonton, c'est un contrôleur de la SNCF. Et puis le gendre est un manœuvre. Bon, ce sont des petits gens. Mais ce qui va se passer, c'est que en fait, on se retrouve là. Ma sœur a 2 ans, moi j'en ai 4. Et en fait, on pourrait se dire, mais pourquoi, au fond, avoir été chez cette famille dès les années d'après-guerre? Mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, on continue à nous cacher, quoi. Donc voilà, les années vont passer, et puis petit à petit, une conscience claire va se faire, c'est-à-dire, encore une fois, la brusque conscience des choses viendra beaucoup plus tardivement, en 78. Et là, à ce moment-là, Serge m'a tout appris, quoi, je veux dire, par là... C'est comme si vous voulez, on sortait des limbes de l'oubli, enfin des limbes du silence, pour d'un seul coup être frappé en pleine lumière. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, bon, là je suis un peu ému parce que, bon, revenir sur ces années d'enfance, etc., c'est pas très... Et puis avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le poids de la peur, etc., bon, on a vécu des choses difficiles. Mais après, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la proximité des Klarsfeld, des fils et filles avec lesquels on a reconstitué une véritable famille de combat, eh bien, je dirais que ça nous a fait du bien, parce que ça a exorcisé un peu la douleur, et c'est la raison pour laquelle, des années après, on peut effectivement mettre à plat les choses pour essayer d'y voir un peu clair quant à sa propre histoire. C'est un peu ce qui m'est arrivé, mais je suis un peu représentatif, encore une fois, de tous ceux que j'appelle mes frères et sœurs.
Parce que vous parlez du silence, en tout cas du fait que la parole était certainement difficile sur le sujet, mais vous dites dans votre livre qu'il y avait des photos, c'est-à-dire que
oui,
ces disparus ont toujours
exactement
été là, malgré tout.
C'est exactement ça. C'est, si vous voulez, on est dans le proche et le lointain, mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a ces visages, donc ils sont représentés dans mon... Dans le livre, hein. Voilà, un beau couple magnifique. Et puis, ils existent virtuellement. Mais on passe, si vous voulez, à côté, et en fait, on les connaît, et en même temps, on ne les connaît pas. Mais il se passe une chose qui est très curieuse, c'est que dans la journée, si vous voulez, on est happé par différentes occupations, etc. Disons, on est moins attentif aux grands événements. Et puis, il y a cette rencontre que l'on peut faire d'une manière nocturne, c'est-à-dire, en fait, Nathalie Zaïdé, qui a été la première et avec laquelle j'ai médité là-dessus, puisque en fait, quand elle était jeune doctorante, je l'aidais aussi à trouver des survivants, des enfants de survivants, de manière à ce qu'elle puisse faire sa thèse de doctorat. Elle a très bien vu les choses. C'est que, si vous voulez, il y a un rapport qui est très ambigu avec cette réalité-là. À la fois, on la tient à distance, et en même temps, on sait que, en fait, elle nous inhibe quelque part, et que, d'une certaine manière, elle est propice à des rêves malsains, à des cauchemars. C'est ça le problème de la transmission qu'a pointé Nathalie Zaïdé et Toby Nathan. C'est le fait que, en fait, les enfants vont faire les mêmes rêves et les mêmes cauchemars que les parents. Et c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire, on voit les photos, on se dit, mais attends, c'est l'innocence, c'est la beauté, c'est l'avenir, et qui a été assassiné. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc ça travaille, je dirais, le psychisme. C'est ça le rapport avec les photos. Et en même temps, c'est ce rapport avec la photo qui est aussi un rapport charnel, qui est aussi un rapport où, en réalité, dans une photo, il y a tellement de choses qui passent quand on veut bien se donner la peine de scruter des détails, des choses qui font qu'à un moment, l'inanimé se remet quelque part à vivre, quoi. C'est la raison pour laquelle, dans le domaine de la mémoire de la Shoah, il faut autant que faire se peut, faire en sorte que les photos puissent être rassemblées, que ce soit un vecteur de transmission, parce qu'il y a tellement de choses qui passent dans les photos. C'est ce que j'ai essayé de décrire à certaines pages du livre, où je revois mes parents, où on était réfugiés à Marseille, et j'essaye d'imaginer un petit peu, à travers les attitudes, la posture, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, y compris le mariage de mon père et de ma mère, en 41 à Marseille. Je vois une ombre passer sur le visage de ma mère, et je sais que ce jour-là, il se passe quelque chose. Alors, bon, quand je lui demande, elle me dit « Oui, j'étais très contrarié parce que ma robe de mariée avait été fripée et qu'elle avait été prêtée par sa belle-sœur. » Mais ça, je l'avais vu sur la photo, quoi. C'est...
Est-ce qu'on peut parler un peu de cette famille Yamniak?
Oui, Yamniak, oui. Alors, justement, c'est le point central du livre, vraiment. Et je vous remercie parce que ça me fait plaisir. Je vois que vous l'avez vraiment lu, le livre. Et je vous en félicite. Oui, les Yamniak, c'est un point central. Pourquoi? Parce que voilà, un couple avec leur petit garçon de 7 ans, donc mon petit cousin, et qui vont être réfugiés à Grenoble. Et à Grenoble, ils vont entrer en résistance. Le réseau Corvette, un réseau vraiment en relation avec la France libre, enfin, vraiment un réseau de combat. Hein. Eux ont en charge de cacher, de faire des faux papiers, de servir de boîte aux lettres, etc. Et en fait, ils vont avoir un destin tragique, puisque, encore une fois, ils ont été dénoncés par une femme. Et ils vont se retrouver donc arrêtés par la Gestapo. À ce moment-là, c'était même la Gestapo de Brunner qui se trouvait dans la région. Et donc déportés le 6 mars 1944 par le convoi, donc 69. Et là, en fait, je me porte encore une fois sur leurs traces. Serge, c'est compliqué, me retrouve des papiers où, en fait, à ce moment-là, ils auraient pu servir de monnaie d'échange avec la Gestapo, mais c'est une histoire un peu trouble parce que, en fait, on voulait les attirer dans un guet-apens pour qu'ils donnent le réseau, mais en fait, cette manœuvre intervient trop tard, puisque, en réalité, quand Rothke, l'un des grands gestapistes en France, fait parvenir un message pour organiser ce guet-apens. On est quelque part autour du 20 mars, donc ils sont déjà déportés. Ce que je veux dire, c'est que la mère et l'enfant vont se retrouver à Auschwitz et probablement directement sélectionné sur la rampe de Birkenau pour aller dans la chambre à gaz, et que Jean Yamiak, lui, plus tard, va faire partie de ceux qui vont se retrouver à Buchenwald. Mais là, je perds vraiment, on peut dire, sa trace, parce que, en fait, tous ceux qui arrivaient à Auschwitz et qui étaient déplacés après, transférés sur Buchenwald, ont terminé dans des conditions cruelles, quoi. On le donne pour fusiller le 15 janvier. J'ai pas trop d'éléments. Mais, qui a vraiment relancé ma recherche, qui l'a intensifié, c'est le fait que sur le monument aux morts de Chambéry, qui rend hommage aux membres du réseau Corvette, sur les 26 membres, il n'y a que deux juifs, ce sont eux. Hein. Mmh. Et en fait, mes recherches ont montré que beaucoup avaient appartenu évidemment à ce réseau, et que, au fond, j'imaginais à distance qu'ils avaient pu être en rapport avec les Yamiak. Hein. C'est comme ça que, en fait, à travers le socle historique, notre imaginaire, qui est fondamental aussi dans cette affaire, nous permet en quelque sorte d'interpréter un petit peu le réel pour essayer de faire revivre les personnages. Et c'est ce qui arrive. C'est que je pointe certains noms qui sont sur le monument aux morts, et puis j'imagine qu'ils ont pu... Parce que quand les Gestapo est arrivé chez les Yamiak, à Grenoble, dans leur magasin, ils étaient en pleine réunion. Ils ont donc été...
Je vous interromps, mais il y a cet aspect-là dont on parle le moins, la question de cette femme qui les a dénoncés et qui est déjà présente dans le dossier de votre tante Becky en 1946.
Tout à fait. Ah oui, 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 non, mais elle existe bel et bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'elle a fricoté avec un haut gradé SS... quand je vais au fort de Vincennes et que je retrouve le rapport du chef de réseau, du réseau Corvette, et qui dit à ce moment-là, dans ce rapport, qu'au moment où Jean Yamiak et sa femme sont arrêtés par la Gestapo, eh bien, Jean, à la dernière minute, fait part de sa certitude qu'il a été arrêté qu'il a été dénoncé par cette salope, j'ai pas d'autre mot, je m'excuse, eh bien, en fait, on a tout un dossier sur elle, et malheureusement, elle est passée entre les mailles du filet, bien que l'un de mes oncles voulait la flinguer, hein. Bon, on l'a retenue au dernier moment, mais si vous voulez, le rebondissement de l'histoire, et je voudrais essayer de le faire court, c'est que sur l'antenne, je reçois à l'occasion de la sortie du livre d'André Halimi, La délation sous l'occupation, je le reçois, et puis je tisse un peu d'amitié avec lui comme ça, et quelques années plus tard, quand il fait son film La délation sous l'occupation, un film qui va passer dans toutes les grandes salles à Paris, etc. Je suis aussi dans le film. Pourquoi ? Parce que, en fait, il m'avait demandé un service, c'était de lui trouver des personnes qui avaient été dénoncées. Donc j'en connaissais, je lui avais donné des noms. Et à ce moment-là, je lui dis, mais moi aussi, dans notre famille, on a les Yamiak. Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème. Donc je fais à ce moment-là mon témoignage. Et à l'occasion de la sortie du film, des années après, moi j'avais oublié, j'avais vu le film une fois comme ça, et puis à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone d'une cousine du mari de ma tante Becky, le colonel Kaminski, lui aussi qui est un héros de la guerre, une guerre magnifique, qui va terminer avec comme grand officier de la Légion d'honneur, bardé de toutes les décorations, bataille de Narvik, résistant, un type fabuleux. Et bien à ce moment-là, cette cousine me dit, vous posez la question dans le film de savoir ce qu'est devenue cette femme, elle, je vais pas donner son nom, et bien moi je sais. Alors à ce moment-là, moi je suis au cabinet, je suis en consultation, je dis ah bon, je m'arrête pour l'écouter, mes cheveux se dressent sur la tête, et elle me dit, tout le monde le sait, elle a été descendue. Bon, voilà, ça... Bon, c'est une... Voilà, la fin de l'histoire.
La fin de l'histoire, malheureusement, je vais devoir vous interrompre.
Oui, mais écoutez, ça a été un grand plaisir.
Mais j'invite les auditeurs à retrouver votre livre, s'ils veulent avoir...
C'est très gentil.
...toute l'histoire. Donc, Souffler sur les braises pour que revivre les ombres, donc, qui est sorti aux éditions Agipresse. Et puis, il y a aussi, cette journée...
Alors, il y a une préface de Serge Klarsfeld. Et je précise, je connais Serge, il m'a fait une préface, mais vraiment... Une préface magnifique, mais vraiment, parce que il y a de l'affect, il y a quelque chose de métaphysique dans sa préface. Je précise bien de métaphysique, et je laisse aux auditeurs le soin de la découvrir.
Vous pouvez aussi retrouver donc Serge Klarsfeld avec vous-même, Claude Boscherberg, lors de la rencontre qui aura lieu donc à 17h cet après-midi au mémorial de la Shoah à Paris. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.